Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on découvre les secrets des hackers sur RTL. Bonjour Sébastien Porte.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste au magazine Ça m'intéresse, vous signez une enquête sur ce thème en partenariat avec RTL. On va poser le décor économique, tiens, pour commencer. Est-ce qu'on a une idée de ce que les hackers coûtent chaque année à l'économie mondiale?
Alors, on a vu circuler toutes sortes de chiffres. Je pense qu'il faut se méfier quand même des études globales parce que c'est très difficile à chiffrer. Ici, on a lu 500 milliards, 400 milliards ailleurs.
De dollars.
De dollars ou d'euros. Enfin, moi, je suis tombé sur tous les chiffres possibles.
C'est très difficile à évaluer par définition.
C'est très difficile et je dirais même que c'est impossible. Alors, il y a peut-être une tendance à surévaluer justement pour pousser les gens à se protéger, ce qui est tout à fait louable. Mais imaginez par exemple un garagiste qui doit renouveler son parc informatique parce que ses ordinateurs rament. Il le fait peut-être parce que ses ordinateurs ont été virusés, mais peut-être aussi parce que ses ordinateurs ont atteint un certain âge. Est-ce qu'on doit comptabiliser ça dans le coût de la cybercriminalité? Impossible.
Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont très touchés par cette cybercriminalité? Les pays les plus touchés?
Tous les pays sont touchés. Alors peut-être que les pays qui n'ont pas forcément développé des barrières très solides sont un peu plus vulnérables. Par exemple, les hôpitaux britanniques ont été touchés au mois de mai.
Ils étaient
en première ligne parce que ils sont réputés ne pas avoir des barrières très fiables, mais tous les pays sont touchés. À chaque fois qu'une attaque est lancée, il y a des attaques ciblées, d'autres de masse, mais toute la planète peut être concernée.
Phénomène mondial, les hackers qui vivent cachés, mais dont les coups font régulièrement la une de l'actualité. Dernière victime, Uber, et ses 57 millions d'utilisateurs dans le monde.
Vous écoutez RTL.
RTL. Les hackers, des criminels du net. Des saboteurs high-tech, de dangereux pirates informatiques capables de pénétrer dans nos ordinateurs. Qui sont ces génies de l'informatique?
La curiosité est un vilain défaut.
Sait-on ce que ces hackers ont dans la tête?
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Et avec le journaliste du magazine Ça m'intéresse qui publie en partenariat avec RTL une enquête sur les hackers, Sébastien Porte. La semaine dernière, on a appris le piratage d'Uber. Ce sont des faits qui datent de 2016. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Quelles données ont été volées?
Alors effectivement, le piratage aurait eu lieu en octobre 2016, il y a donc plus d'un an. C'est le nouveau PDG de l'entreprise qui a révélé cela il y a une semaine. Alors ce qui a été dit, c'est qu'on avait volé des noms, des adresses mail, des numéro de téléphone, mais paraît-il il n'y a pas d'informations sur les trajets qui étaient empruntés par les clients, donc ce sont les clients et les chauffeurs qui sont concernés. Pas non plus d'informations bancaires, toujours d'après le PDG de cette entreprise. Les nationalités des victimes n'ont pas été révélées non plus. Il est probable que la France soit concernée, ouais. Mais on ne sait pas.
Il y a une espèce d'opacité dans cette histoire. D'abord, pourquoi ça sort aussi tard? Pourquoi il faut attendre?
Alors, ça sort souvent tard, d'abord parce qu'on s'en rend pas toujours compte. Souvent, les outils s'en rendent compte avant les hommes. Et puis ensuite, là, il y a peut-être un cas très particulier. La société Uber a été malmenée par le changement de PDG au courant de l'été dernier. Donc, le nouveau PDG a dit « J'étais pas au courant, je débarque, j'ai pris toutes les mesures nécessaires. » Parmi les mesures nécessaires, ils ont licencié deux cadres de l'entreprise qui auraient étouffé l'affaire. Donc, voilà ce qui explique peut-être le retard. Mais c'est pas... Uber n'est pas un cas unique. Hein.
Et alors Uber face aux hackers, ça donne quoi? Ils ont dû payer une rançon?
Bon, là encore, il semblerait que les informations qui ont été divulguées n'ont pas été utilisées de manière malveillante par les pirates. Mais oui, effectivement, Uber a expliqué avoir payé une rançon.
De plusieurs millions de dollars? Alors pourquoi? Puisque les données ont été...
C'est moins que ça. Oui, je crois qu'on est plutôt dans les 100 000 dollars. Oui. Hein,
Est-ce qu'on peut être sûr, parce qu'on essaye de se mettre à la place des patrons d'Uber, on peut être sûr que ces données vont être détruites? On paye une rançon, mais on n'a aucune garantie.
Tout à fait. Alors d'abord, il faut préciser que la loi oblige à détruire les données, oblige à révéler également aux clients et aux autorités lorsqu'on a été victime d'un piratage. Mais dans les faits, effectivement, on essaye de camoufler la poussière sous le tapis. Je vais citer un autre exemple. C'est un site de rencontres extra-conjugales qui s'appelle... Ashley Madison, qui avait fait payer à ses utilisateurs 19 dollars pour en leur assurant qu'ils effaçaient leurs données. En réalité, les données n'ont pas été effacées et elles ont été piratées par des hackers, on va dire des activistes avec un H, quoi, des hackers militants qui avaient des préoccupations plutôt morales, qui voulaient dénoncer ces pratiques-là. Donc, se sont retrouvés dans la nature des informations sur les fantasmes sexuels, les numéros de téléphone, les identités des gens qui fréquentaient ce site
c'est
de rencontre.
C'est plutôt gênant, oui, on imagine.
Je ne sais pas qu'il y avait des hackers moraux portés sur la moralité, mais c'est intéressant, il y a tout forcément dans ces pirates, même les pirates au grand cœur. Mais comment Uber sait qu'elle a été, comment cette société sait qu'elle a été piratée? Parce que ce qui est intéressant, c'est de connaître les failles pour pouvoir les colmater.
Alors, comment est-ce qu'elle a été piratée?
On ne sait rien non plus.
Voilà, là aussi, on est quand même dans une certaine opacité.
Alors, on va raconter une autre histoire que vous avez amorcée tout à l'heure, Sébastien Porte, celle de ces hôpitaux britanniques. Alors là, on imagine des conséquences graves en matière de santé publique. Hôpitaux britanniques qui ont eux aussi été hackés. A tout de suite sur RTL pour la suite de la curiosité. Et puis, on écoutera Calogero, elle m'oublie.
Écoutez, vous êtes sur RTL.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
À la maison, sur la route, au bureau, dans vos ateliers, dans les champs, où que vous soyez, vos témoignages sont chaque jour le cœur d'On est fait pour s'entendre. L'émission qui vous rassemble, c'est de 15h à 16h en direct sur RTL.
RTL.
Un hacker attaque nos marchés financiers.
Si on veut des indices sur l'identité du hacker, il nous faut un homme qui s'appelle Hathaway. C'est un hacker, un programmeur de génie.
La curiosité est un vilain défaut.
Il continue à coder. Dans quel but?
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Je peux m'en prendre à n'importe qui.
Jusqu'à 15h sur RTL.
N'importe où.
Ce sont les nouveaux rois du hold-up et déjà le cinéma leur rend hommage avec cet extrait de Hackers sorti en 2015 avec un film de Michael Mann. Ces braqueurs de banque n'ont pas besoin de cagoule ni de pistolet. Ben non, ils font leur mauvais coup dans leur salon, comme ça, au chaud, sur leurs ordinateurs. On apprend à traquer les hackers sur RTL avec notre invité, le journaliste Sébastien Porte. Alors, un autre piratage que vous racontez dans l'article de Ça m'intéresse, c'est celui des services de santé britanniques. Comment le personnel s'en est-il rendu compte ?
Alors, oui, effectivement, ça s'est passé, c'est une des attaques généralisées dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça s'est passé au mois de mai dernier, une attaque par un virus qui s'appelait WannaCry, et effectivement, les hôpitaux britanniques étaient en première ligne.
C'est-à-dire quoi, vous allez pleurer, c'est ça, WannaCry ?
Alors oui, effectivement, ça a dû faire pleurer certains patients, certaines infirmières, certains infirmiers.
Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Comment
alors,
ça s'est traduit, en fait ?
Comme pour tout un chacun, sauf que les hôpitaux britanniques étaient en première ligne, ils étaient un petit peu le patient zéro, c'est-à-dire les premiers dans la chaîne de transmission du virus, probablement parce qu'ils étaient plus mal protégés que d'autres sociétés, et le virus exploitait une faille dans les systèmes d'exploitation Windows XP.
Donc oui, étaient équipés. Qu'est-ce qui leur arrive concrètement?
Donc on voit débarquer un email, ouais. On clique dessus parce qu'on est attiré par le message qui est indiqué dessus, et là l'email va libérer un logiciel malveillant, un malware qui va se répandre dans le serveur de l'hôpital, qui va infecter les fichiers, les dossiers médicaux des patients. Et là, si vous voulez récupérer ces dossiers-là, pouvoir les relire à nouveau, il faut payer une rançon de l'ordre de $300. Et là, donc, on va à nouveau libérer. Enfin, concrètement, le pirate vous dit, vous me donnez $300 dans les 3 jours et je vous envoie une clé de déchiffrement qui vous permettra d'accéder à nouveau à ces fichiers.
Ah oui, ça veut dire que ça paralyse complètement l'activité de cet hôpital britannique. On ne peut plus soigner les patients.
Exactement. Et c'est pour ça que les hôpitaux sont particulièrement sensibles, parce que là, on a affaire à une question qui touche à la vie, à la mort, à la santé des gens. On peut effectivement se retrouver à la veille d'une opération, à ne plus pouvoir ouvrir un fichier médical, et ça peut perturber le déroulement de l'intervention.
Mais Sébastien Porte, ça semble, pardon, mais un peu ridicule, $300. Sauf que ce virus, il s'est répandu un peu partout. Il a touché des dizaines ou des centaines d'entreprises, c'est ça, et de
sociétés ? Oui, il a touché 150 pays dans le monde.
Ah oui.
On a effectivement beaucoup parlé des services hospitaliers britanniques, où 50 hôpitaux ont été touchés, ce qui représente 20% du secteur. En France, apparemment, on a été moins touchés. L'entreprise Renault a été touchée et il semblerait que peu d'entreprises aient cédé au chantage. Bon, après, il faut aussi peut-être relativiser, on a peut-être surmédiatisé WannaCry. Rappelons quand même que ce phénomène de logistique logiciels rançonneurs existent depuis bien longtemps. Les premiers ont été mis au point en 1989. On a vu passer différentes générations. Souvenez-vous, au début des années 2000, il y avait ce virus qui s'appelait I Love You. On cliquait dessus. Bah oui, on pensait qu'on avait reçu une lettre d'amour de son collègue ou de sa collègue. Et en fait, c'était autre chose.
Ces gangs de cybercriminels portent des noms. Il y a par exemple gang Carnabac. Qu'est-ce qu'on sait d'eux ?
Carbanac.
J'ai dit quoi ?
Carbanac, oui.
Je pense que c'est Carbanac. Ce sont effectivement les noms de ces cybergangs. Avant, on avait la bande à Bono, on avait des mafias, la Cosa Nostra. Aujourd'hui, ils s'appellent effectivement Carbanac, ils peuvent s'appeler Lazarus. Ils ont toutes sortes de noms qui leur sont donnés la plupart du temps par les sociétés de cybersécurité qui vont trouver des fragments dans les codes, dans les lignes de programmation écrites. Ils vont trouver une expression qui revient. Alors pour Carbanac, c'était le mot carben, qui revenait souvent.
Donc, ça veut dire quoi, pardon ?
Je ne sais pas.
Ah oui, d'accord, ouais.
Voilà, ce sont ça fait partie du jargon que ces gens-là utilisent.
Donc on ne sait pas combien ils sont, à quoi ils ressemblent, si ce sont des hommes ou des femmes, on ne sait pas grand-chose de ces gens-là.
Certains se sont fait arrêter quand même, donc on a une petite idée.
Oui, alors effectivement, les profils sont extrêmement variés. Ça peut commencer par le lycéen de 16 ans, comme on l'a vu en Grande-Bretagne cet été, où un certain Adam Mudd s'est fait arrêter dans sa chambre, dans la chambre du domicile de ses parents, par la police, parce qu'il avait développé un programme qui lançait des attaques sur les banques.
Pardon, je vous interromps, c'est surtout des ingénieurs informaticiens qui...
Alors,
qui
effectivement, il faut avoir certaines compétences, bien que, d'après les informations que j'ai recueillies auprès d'experts, les compétences nécessaires pour pouvoir se livrer à ce genre de manœuvre sont de plus en plus faciles d'accès. Aujourd'hui, n'importe quel wannabe, m'a-t-on dit, n'importe qui, quel prétendant à ce genre d'activité peut devenir un hacker.
En tout cas, on parle beaucoup anglais chez les hackers. Les États s'activent contre ces hackers. Restez avec nous sur RTL dans la curiosité. On va pousser la porte de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques.
Bon après-midi sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Un réseau de pirates informatiques démantelé. Jamais l'État français n'avait dû faire face à un tel acte de piratage informatique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Comment traquer les hackers, les pirates informatiques ? C'est ce que l'on découvre sur RTL avec Sébastien Porte, journaliste au magazine. Ça m'intéresse. On va parler des moyens dont dispose la France pour débusquer ces pirates. On a cité l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est combien de divisions, si j'ose dire ? Combien d'hommes qui travaillent pour cette
agence ? Alors, à l'ANSSI, c'est 600 personnes. Comme par exemple en Allemagne, vous allez avoir également 600 personnes dans l'Agence de cybersécurité allemande. Mmh. Donc, chaque pays s'est doté ces dernières années d'une agence spécialisée. À l'ANSSI, on va se préoccuper plus particulièrement de ce qu'on appelle les OIV, c'est-à-dire les organismes d'importance vitale, centrales nucléaires, oui. Système de signalisation des trains, raffinerie de pétrole, où vraiment il y a un enjeu fort.
Et les hôpitaux aussi ou pas ?
Et les hôpitaux ouais. aussi. Donc l'ANSSI va chapeauter et coordonner les actions de ces experts, mais aussi d'experts qui sont répartis dans toute une galaxie d'organisations.
Il y a de la police, il y a de la gendarmerie.
Exactement. Voilà. Alors, il y a une montée en puissance incroyable en termes d'effectifs depuis quelques années. Par exemple, j'ai appelé la police judiciaire. Donc, j'ai été mis en relation avec un organisme dont je vous épargne l'intitulé parce qu'il est très très long. C'est
Merci.
Un sigle très très long. Ils ont aujourd'hui 450 ce qu'ils appellent ICC, des investigateurs en cybersécurité, qui sont répartis sur tout le territoire, qui sont rattachés à différents départements de la police, ils envisagent de passer à 4500.
Multiplié par 10.
Oui. Donc ils seront épaulés par ce qu'ils appellent des pics, c'est-à-dire des primo-arrivants. Ce sont des enquêteurs qui vont commencer à déblayer le terrain pour les experts.
Comment ils repèrent un hacker ?
Alors,
il y a quoi et c'est quoi le truc ?
Je crois que ce qui est important, c'est de faire un parallèle avec la vie réelle, c'est-à-dire que tout se passe comme dans la vie réelle. La cybercriminalité, c'est une forme de criminalité qui utilise les outils d'aujourd'hui.
Oui, vous parliez par exemple de tics de programmation tout à l'heure, c'est-à-dire la répétition de certains mots ou de certains codes,
voilà,
de certaines attitudes.
Effectivement, c'est un indice possible. On va se pencher sur les écritures qu'il y a à l'intérieur des virus et on va tomber sur un tic de langage, une expression qui est utilisée plus particulièrement particulièrement en Afrique, plus particulièrement chez les Russes, plus particulièrement dans le monde anglophone, et on va resserrer un petit peu le filet, par exemple.
C'est une filature, en fait.
On fait exactement de la filature. On fait des enquêtes de voisinage, sauf qu'on le fait sur les forums, on le fait sur Facebook. On va interroger les gens. On se fait passer également soi-même pour un hacker quand on est policier, pour aller sur le Darknet, enquêter un petit peu comme un policier irait boire des coups dans un bar mal famé pour en savoir plus sur les petites crapules du quartier.
C'est-à-dire qu'ils vont se faire passer, par exemple, pour un acheteur
Exactement. Ils vont se faire passer pour un acheteur, ils vont se faire passer pour une victime potentielle, dans les cas, par exemple, de pédopornographie. Mmh. Et puis, ils vont placer ce qu'on appelle des honeypots, des pots de miel, ce sont des leurres. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, par exemple, je vends un logiciel de malveillant et lorsque un hacker va cliquer dessus pour l'acheter, en réalité, il va fournir des informations sur lui, sur là où il habite, son adresse IP, l'adresse de son ordinateur. Et tout ça, ce sont des indices que les policiers peuvent utiliser.
Il y a beaucoup...
Ou les gendarmes, pardon. Je précise aussi qu'il y a peut-être même plus de gendarmes qui travaillent là-dessus que de policiers, puisqu'ils sont 3000 NTEC à la gendarmerie.
Et parmi ceux qui travaillent dans ces services, est-ce qu'il y a d'anciens hackers, Sébastien Porte?
Alors oui, là on est sur une zone grise et la couleur a du sens ici. Une zone grise entre ce qu'on appelle les white hats et les black hats, les chapeaux blancs, les chapeaux noirs, c'est-à-dire les gentils et les méchants hackers. On peut être méchant le jour, enfin plutôt méchant la nuit et gentil le jour. Effectivement, il y a des Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'un d'entre eux s'est fait arrêter. Il avait mis un frein à la propagation du virus WannaCry et puis ça c'était au mois de mai, et au mois d'août, 3 mois après, il se fait arrêter à Las Vegas parce qu'il avait lui-même forgé un virus pour attaquer des banques. Donc la frontière, effectivement, entre les méchants et les gentils est très fine.
Merci beaucoup Sébastien Porte, votre enquête est publiée donc dans le magazine Ça m'intéresse et c'est en partenariat avec RTL.
C'est la fin de cette émission, vous pouvez nous réécouter sur rtl.fr pour nous faire découvrir à vos amis et vos ennemis.
Vous écoutez RTL.